Micro-ondes.
Une émission qui vous tient à contre-courant.
Tous les premiers dimanches du mois.
On vous parle de sujets brûlants.
Mais c'est pas de réchauffer.
Une émission qui s'attaque au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales. À l'intérieur, pas de la lutte, que de la lutte.
De midi à 14h.
Sur News FM 101.2.
Le mieux à faire, ce serait d'ouvrir toutes ces frontières, d'enlever toutes ces barrières. Ils ne gaspillent pas leur énergie, leur argent pour dire on va se faire encore des lois, on va faire des murs. Ils se disent qu'on va être envahis, il faut trier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça ne sert à rien.
Bonjour.
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 Plein de petites nouvelles voix du coup sur News FM ce deuxième dimanche du mois. Bienvenue à la première émission de Micro-ondes. Micro-ondes, l'émission qui vous tient à contre-courant. On est donc le deuxième dimanche du mois, mais à partir du mois prochain, vous pourrez nous retrouver sur l'antenne de News FM tous les premiers dimanches du mois. On se retrouvera donc le premier dimanche de décembre de midi à 14h. Cette émission Micro-ondes,
ce sera le 6 décembre.
Ce sera donc le dimanche 6 décembre de midi à 14h. Pourquoi avons-nous fait Micro-ondes ? Cette émission, elle est née en fait du constat que les informations qu'on peut lire, voir ou entendre dans les grands médias sur les thèmes des migrants, des frontières, des personnes en galère étaient très parcellaires et biaisées et participaient à créer un climat assez nauséabond, un climat de racisme, de concurrence entre les pauvres et surtout d'invisibilisation des vraies causes justement de cette crise, le libéralisme, le capitalisme ou d'autres facteurs. Alors on s'est dit qu'on allait prendre le micro et les ondes pour faire Micro-ondes, pour donner un autre point de vue, pour prendre le temps d'expliquer des sujets souvent complexes et donner la parole à celles et ceux qui sont directement concernés par ces questions et également aux personnes qui les soutiennent, ces personnes-là qu'on n'entend pas ou qu'on entend peu. Aujourd'hui, on a décidé de parler des réfugiés parce que c'est un thème dont on entend beaucoup parler en ce moment, dont on nous rabâche entre guillemets les oreilles, enfin, dont on parle beaucoup dans les médias, mais sans qu'il soit jamais vraiment expliqué, pas plus que le parcours justement du combattant qui se cache derrière tout ça. On a donc a priori un invité, Olivier Tirard-Collet de l'ADA, qui pour l'instant n'est pas encore venu, peut-être que notre déroulé sera donc un peu chamboulé. Mais en tout cas, voilà, si jamais il est là, on fera l'interview avec lui, sinon on reviendra de toute façon sur cette question de la demande d'asile. Ensuite, nous reviendrons sur une journée qui a eu lieu à Grenoble le 10 octobre dernier, pour un accueil digne et solidaire de tous les migrants. Une journée du coup qui était organisée par la mairie de Grenoble à Grenoble. Puis nous raconterons erreur.
Bah, peut-être qu'on y reviendra aussi tout à l'heure, mais du coup, la mairie, enfin, il y a un démenti en fait qui a à faire aussi sur cette journée qui a été reprise par la mairie de Grenoble, mais qui n'était pas organisée par la mairie de Grenoble, mais par des collectifs.
Par
et
plusieurs collectifs qui étaient donc le réseau Alerte et ensuite le réseau Solidarité Migrants.
Ok, du coup, dans tous les cas, donc, on reviendra sur cette journée en expliquant justement un peu une contre-information par rapport à tout ce qui s'est donné. Puis, on racontera aussi comment s'est passé cet été et cet automne à Grenoble, notamment avec une chronologie assez sordide autour des expulsions de squats et de campements. Et enfin, nous vous parlerons d'Ali Ziri, un homme de 69 ans décédé suite à une interpellation policière musclée à Argenteuil. Enfin, nous finirons sur quelques news, un agenda et bien sûr, tout au long de l'émission, de la musique qu'on aime et qu'on espère vous aimerez aussi. Ce qui est important dans tous les cas, c'est que c'est une émission où on veut justement que quand je dis des bêtises un peu comme ça vient d'arriver, vous soyez là aussi pour réagir et pour nous dire il y a eu une erreur. Donc n'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire sur le Facebook de notre émission de radio, donc Micro-ondes News FM, et à nous appeler au 04 56 14 23 54. 04 56 14 23 54. Vous connaissez déjà peut-être ce numéro si vous êtes des auditeurs de News FM. N'hésitez pas à réagir. Sans plus attendre, on commence donc tout de suite avec l'interview donc d'Olivier, mais le point suivant qui sera du coup immédiatement cette manifestation donc du 10 octobre pour un accueil digne et solidaire de tous les migrants.
Voilà, alors du coup, cette journée, elle a été organisée en effet par trois coordinations de collectifs. D'une part, le réseau Alerte, d'autre part, la CISEM, coordination iséroise de solidarité avec les étrangers migrants, et Migrants en Isère. Du coup, ces coordinations réunissent vraiment plein d'associations et de collectifs qui sont assez différents les uns des autres, aussi bien par leur mode d'action que par leur positionnement politique, qui est plus ou moins radical, et aussi leur degré de proximité et de travail avec les pouvoirs publics. Donc c'était vraiment une réussite d'arriver à faire ce travail en commun. et d'arriver du coup à l'organisation de toute cette journée. Donc cette journée, elle commençait dès 10h du matin. Il y a eu un forum associatif au Jardin de Ville jusqu'à 15h, donc qui réunissait plein d'associations d'accompagnement des migrants ou de migrants eux-mêmes. Ensuite, donc à l'intérieur de ce moment, de 12h à 14h, il y a eu un moment très fort où c'était des témoignages de personnes migrantes qui racontaient ce qu'elles vivaient, les difficultés et aussi les solidarités qu'elles rencontraient. Et ensuite, à partir de 15h, là, il y a eu le départ en marche. Donc on est parti faire une marche jusqu'à la préfecture, où là, il y a eu un arbre qui a été planté symboliquement, un cèdre du Liban. Bon, pour la petite histoire, il n'a pas du tout été planté, il a été dans un petit camion, parce qu'on n'a pas le droit de planter à la préfecture. Du coup, il a été planté au jardin botanique. Et voilà, donc à l'arrivée, il y avait des prises de parole, la chorale, une fanfare. Et pour se donner un peu une idée de à quoi ressemblait cette journée, je vous propose d'écouter un petit montage, un petit reportage qu'on a effectué là-bas.
Face, je dirais, à ce qu'on appelle le drame permanent des migrants, parce que ce drame-là, il ne date pas d'aujourd'hui, il date bien sûr de nombreuses années, mais qui a été pas mal connu, si on peut dire, du grand public par les drames en mer et les milliers de morts en Méditerranée, et aussi au fait qu'il y a de plus en plus de migrants quand même qui fuient les guerres, la persécution, la misère, la famine, etc. On s'est dit que c'était important que toutes les associations qui travaillent en solidarité d'accueil ou d'accompagnement des migrants, avec les migrants eux-mêmes, en donnant la parole, puissent organiser une journée un peu visible où toutes les associations, au-delà de leurs différences, puissent tenir des stands, rencontrer le public, expliquer un petit peu et aussi, encore une fois, donner la parole aux migrants.
Voilà, je m'appelle Juraj Plescon, je suis rome, je suis fier d'être rome et je partage la culture française, je l'apprends comme n'importe quelle personne. J'arrivais en France en 1999 et j'ai déposé l'asile politique. J'ai attendu 5 années où M. Sarkozy, il était ministre de l'Intérieur, qu'il a décidé tout le temps qu'on m'a expulsé sur 48 heures. Mais il m'a laissé 5 années en France où j'ai appris, où j'ai partagé, où j'ai payé mes impôts. Et après, il fallait quitter la France et entrer dans mon pays. Mais enfin, je n'ai pas de pays. À Rome, il n'a pas de son pays. Des Roms, c'est des Européens. Avant l'Europe, ils étaient déjà Européens. Ils avaient arrivé de Inde. Ils avaient traversé de Inde jusqu'à Slovaquie, à Prague, à Bratislava, en Roumanie, en Bulgarie. Et viennent en France, en Espagne. Et j'ai demandé asile territorial. À mon surprise, j'avais un carte de séjour à titre exceptionnel. Qui m'a permis de travailler. On ne peut pas dire intégrer, parce que intégration, le mot intégration c'est un peu fort, parce que c'est que c'est une polémique politicienne, comme il y a des élections, où on prend intégration, mais c'est fou, intégration de nature spontanée. Je ne vois pas une seule personne qui veut pas s'intégrer. Il est obligé de s'intégrer dans la société française, parce que le système français est extrêmement dur. S'il y a des gens qui ne parlent pas français, est-ce qu'on peut parler? Ils refusent de s'intégrer? Non. Les gens qui ne veulent pas s'intégrer, ils ne sont pas en France. Voilà. Pour moi, intégration, ce mot, il ne devait même pas exister. Parce que c'est la polémique. Comme on parle d'intégration, faire des gens s'intégrer. Des fois, on les désintègre, et ça, on ne parle pas du tout.
On est face à une politique d'asile et d'immigration qui est vraiment catastrophique. 80% des demandes qui sont déboutées, si on peut dire. Il y a environ 600 000 personnes en France qui sont sans papier, qui ont été déboutées de toutes leurs demandes. À Grenoble, on sait bien que dans l'agglomération grenobloise, il y a près de 2 000 personnes qui ne sont sans solution pérenne d'hébergement. Il y a déjà une situation où on est bien sûr OK pour que la France, c'est évident, accueille les migrants qui vont venir. Mais c'est évident, et on va surtout pas opposer les migrants d'hier, les migrants d'aujourd'hui et les migrants de demain. On ne va pas non plus opposer les migrants politiques et les migrants économiques. Pour nous, c'est un ensemble. Les migrants économiques sont aussi des migrants politiques. Il y a à cause de toute une politique économique de pillage du tiers-monde et d'exploitation des matières premières que règne le mal développement, la famine, le chômage à très grande échelle dans des pays d'Afrique notamment. C'est vrai qu'il y a certaines associations qui ont peut-être plus une analyse géopolitique d'ensemble, d'autres sont des plus humanitaires. C'est à la fois important de faire une action quotidienne, d'accompagner chaque migrant dans sa démarche de l'aider à avoir des papiers, d'accord, mais c'est aussi important d'avoir une démarche plus politique que de contestation radicale de la politique d'asile d'immigration qui est menée en ce moment.
La mer, c'est la vie. La mer, ce sont les rêves sans cesse recommencés comme le flux et le reflux des vagues. La mer, c'est l'espoir qui renaît chaque matin. Comment la mer serait-elle autrement? Pourtant, aujourd'hui, des vents mauvais soufflés par les hommes ont enragé la mer. Pourtant, la mer aujourd'hui tue. Pourtant, la mer est source d'angoisse indicible. Pourtant, la mer est source de désespoir et de mort. Non à cette mer-là. Oui, à l'ouverture des cœurs et des esprits, à la liberté, à la solidarité. Ouvrons les frontières.
Hadel Doznas.
Batek Sarman Neda.
Затворите границы.
Марсхара баз коніт.
Откройте границы.
Femme en lutte, citoyenne à part entière. On est à Valence. Lutte, L-U-T-H, parce que les femmes qui viennent de pays en guerre voulaient signifier par là qu'elles voulaient se battre, mais avec d'autres armes que celles des bombes et celles des militaires. Donc elles se battent avec leur culture. Voilà, ça s'en est un exemple, des textes, des recueils de textes. Il y a 23 nationalités dans l'association, du type la fille qui a fait des études supérieures et qui va à Pôle emploi et à qui on demande « Vous savez lire, vous savez écrire ?» et qui répond en rigolant « Oh non, je les sens tout juste de mon cocotier. » Donc on tourne en dérision un petit peu tout ce qui est possible et il y a beaucoup de choses, beaucoup de travers et puis aussi des souffrances et des douleurs qui peuvent s'exprimer avec le recul du rire et qui ne le sont pas forcément autrement. C'est pas des victimes. Elles ont quitté leur pays, elles ont eu le courage de partir, des courages qu'on n'a pas, nous. Et on devrait tout le temps leur donner des leçons de savoir-faire, des leçons de ci, des leçons de ça. Et ça, vraiment, elles n'en veulent plus, quoi. C'est parti d'une volonté d'affirmer l'autonomie des femmes. Ça, c'est très important.
Grâce à cette collective, je suis là. Sinon, peut-être j'étais expulsée. Donc, il y avait des années que je suis avec Femmes en lutte. Ça nous aide moralement, juridiquement, on est tous ensemble. On est différent, mais chacun avec son problème. Donc, la problème, nous sommes réunis. Donc, on commençait à se battre ensemble.
Par Sankins, c'est que dormir là-bas et à 8h matin tout sorti et toute la journée dans la rue. Dans la rue, la pluie, le froid, chaud, tout interdit d'entrer là-bas jusqu'à soir. Et bien que moi j'ai trouvé Femme en lutte, il y a beaucoup aide moi, j'ai trouvé local, j'ai trouvé un peu bouger parce que c'est triste toute la journée dans la rue. On a besoin de local, pas juste pour dimanche, parce qu'on a fait banderole, on a fait répéter spectacle, sketch. On a besoin de local, on ne fait rien maintenant. On a bougé quand même.
On vient à Grenoble.
Bei Okfuk in Schwarz zu Tribu участвует der Schofamalutuka. Schabische Problem, Sanje, Bonus, Arlur, Wolf, Schwarz, Schavik, Barotze, der Schwu, Zaswei, Prova, Barotze, der Schwu.
Elle a dit que on est toutes les femmes, chacun avec son problème, mais on est fortes. On se bat, on va continuer. On ne s'arrête pas, on ne baisse pas les bras.
L'Europe exploite! Frontex assassine! L'Europe exploite!
métropole et de l'humanité, elle n'est plus le symbole.
Je suis très en colère. Alors, je suis d'autant plus en colère que des tas d'associations et des tas de collectifs se sont battus et se battent depuis des années pour faire savoir toutes ces questions-là. Et aujourd'hui, la ville a mené une opération de récupération de cet événement, laissant supposer que ces collectifs sont des soutiens à cette mairie qui expulse. J'espère que non. J'espère qu'on n'en est pas là. Donc j'appelle vraiment tout le monde à réfléchir à ce qui vient de se passer et à le dénoncer et à se regrouper. Des initiatives vont avoir lieu. J'appelle vraiment tout le monde à rejoindre ces initiatives pour reconstruire un rapport de force qui permette à ce que tout le monde, mais vraiment tout le monde, les locataires ayant des difficultés à payer leur énergie, des locataires ne pouvant plus payer les loyers, les locataires qui sont expulsés ou expulsables, les sans domicile fixe, quelle que soit leur origine, la conditionnalité de l'hébergement doit rejoindre la conditionnalité du droit au logement.
Un pays qui était le plus grand pays d'immigration à la fin du 19e siècle, avec 1 million de Belges en 1886, puis en début du 20e siècle, avec 2 millions d'étrangers en espace de 10 ans après la Première Guerre mondiale, avec 500 000 Polonais en 1930, et les vagues successives d'Italiens, d'Espagnols, de Portugais et de Maghrébins après la Deuxième Guerre mondiale, sans parler des réfugiés sud-américains et asiatiques dans les années 1970, se sent-ils aujourd'hui incapables d'accueillir décemment ceux qui sont sur son sol et ceux qui frappent à sa porte pour diverses raisons politiques, économiques, écologiques et humanitaires? Est-ce de peur de déplaire aux xénophobes de tout poil, aux esprits fermés, à ceux qui craignent la mixité ou tout simplement par des calculs électoralistes? On veut nous faire croire que l'accueil de 24 000 réfugiés en 2 ans peut gommer l'existence des dizaines de milliers de sans-papiers, de sans-logis et donc de sans-droits. Sur 21 millions de réfugiés dans le monde, 86% sont accueillis ailleurs qu'en Europe. Nous devons exiger avec force et conviction l'accueil digne des migrants d'hier et d'aujourd'hui. Nous ne pouvons accepter le tri entre les réfugiés selon leur nationalité ou les raisons de leur exil. Personne ne quitte son pays, sa famille et ses amis de gaieté de cœur pour aller mourir au fond de la Méditerranée, dans les camions frigorifiques ou dans le tunnel sous la Manche. La défense des droits des migrants et des demandeurs d'asile, c'est aussi la défense de nos droits. Soyons vigilants.
No tengo lugar, no tengo paisaje, y aún menos tengo patria. No tengo.
Rebonjour pour les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent. Bienvenue à la première de l'émission Micro-ondes sur News FM 101.2. Donc là, on vient d'entendre la chanson Nathan Alamo, interprétée par Remedio Silva Pisa, qui est une chanson qu'on retrouve sur la bande originale du film Van Gogh de Tony Gatliff. Et avant ça, on a écouté un reportage sur la journée pour un accueil digne et solidaire de tous les migrants qui a eu lieu le 10 octobre à Grenoble. Et à la fin de ce montage, on entend une militante qui parle de récupération politique par la mairie de Grenoble. Et du coup, on se disait que ça valait le coup un peu d'expliquer. Parce que, en effet, cette manifestation, cette journée, elle a été organisée indépendamment de la mairie de Grenoble. Mais beaucoup ont pensé que la mairie l'organisait. Parce qu'en fait, ce qu'a fait la mairie, c'est d'écrire le texte d'appel sur des grands panneaux qui ont été mis dans la ville avec le logo de la mairie. Et ça, c'est un peu semé la confusion et fait grincer des dents parce que voilà, ça a été vu comme une tentative de récupération, clairement. Et il y a des enjeux autour de ça parce que la mairie de Grenoble fait partie des villes candidates pour l'accueil des réfugiés, notamment de Syrie, dont on parle beaucoup en ce moment. Et cette mairie, elle a quand même bien besoin de redorer son blason par rapport à sa politique vis-à-vis des migrants. Parce que comme on vous en reparlera plus tard, cet été et cet automne, elle a quand même eu une politique d'accueil assez discutable, on va dire. Donc on reviendra plus dans les détails. Et voilà ce qui est aussi critiqué de la part de la mairie, c'est qu'ils jouent le jeu de faire cette différence du coup entre les bons réfugiés, des réfugiés politiques, voilà, dont on parle dans les médias, on en fait des tonnes, bon, qui bien sûr, comme ça a été dit aussi dans le montage, méritent un accueil digne et solidaire, mais qu'il y aurait comme une autre catégorie de migrants qui seraient des personnes qu'on peut un peu traiter comme des moins que rien, et laisser à la rue, et voilà, tout ça, sans trop s'en émouvoir. Et maintenant, on va passer... Notre invité est enfin arrivé, donc Olivier Lada. Il nous a fait un peu peur, mais voilà, on est très content de le recevoir. Et du coup,
bonjour Olivier.
Bonjour.
Donc, on va écouter un petit jingle, et après, on passera à l'interview d'Olivier.
News FM.
News FM. News FM, la radio officielle du hip-hop à Rennes, à Grenoble, sur le 101.2 News FM.
Et on est toujours dans l'émission Micro-ondes, dans laquelle on va aborder la question des migrants, avec notre invité Olivier Tirard-Collet de l'association ADA, accueil des demandeurs d'asile, que nous remercions. Et nous espérons qu'il pourra nous éclairer sur la situation des demandeurs d'asile qui nous semble à nous tous d'une incroyable complexité. Voilà. Alors Olivier, est-ce que tu pourrais déjà nous parler de l'ADA, hein, de son rôle et puis du tien en particulier à l'ADA ?
Bonjour, tout d'abord toutes mes excuses pour le retard dans cette émission, je suis venu en voiture, à chaque fois que je prends ma voiture, je pense que notre société fonce dans le mur, enfin c'est un petit aparté. Alors l'ADA, l'association pour laquelle je travaille et dont je suis l'un des deux salariés et demi, nous sommes deux équivalents et demi temps plein dans cette association, qui est une association essentiellement de bénévoles. L'ADA est une association loi 1905 qui existe depuis une trentaine d'années maintenant, fêtera son 30e anniversaire l'année prochaine, qui a deux missions. La première, c'est l'accueil et l'accompagnement des demandeurs d'asile dans leur démarche auprès d'un certain nombre d'institutions qui sont censées décider si oui ou non ils peuvent obtenir le statut de réfugié. Et la deuxième mission de notre association est de défendre le droit d'asile, le défendre concrètement sur le terrain et puis aussi lorsque des grandes décisions politiques ou législatives sont prises pour modifier ou pour altérer, ça va souvent dans le sens d'altération, ce droit d'asile. Voilà. Et pour ce faire, nous avons mis en place quelque chose qui s'appelle l'Observatoire de l'asile en Isère, qui est en fait une initiative, une activité regroupant plusieurs associations, et dont l'ADA est moteur, et qui a pour vocation de rassembler des informations, de rendre publiques ces informations sur la mise en application du droit d'asile et la situation des demandeurs d'asile, notamment en Isère, puisque c'est le seul terrain sur lequel nous intervenons.
Et pour commencer, peut-être une question de vocabulaire. En dehors du fait des migrants, tout le monde sait ce que c'est, mais entre réfugiés et demandeurs d'asile.
Alors, la question sémantique occupe pas mal les décideurs politiques et les militants associatifs, à savoir comment est-ce qu'on définit, comment est-ce qu'on qualifie ces personnes qui arrivent sur le territoire européen et sur le territoire français en particulier. Alors, il faudrait peut-être faire un effort de définition, mais pas s'arc-bouter là-dessus. Le migrant, c'est quelqu'un qui se déplace, qui traverse une frontière. Voilà. Ça peut être un émigrant, quelqu'un qui quitte la France. Et il y a énormément de Français qui quittent la France pour s'installer ailleurs. Et puis, un immigrant, c'est quelqu'un qui vient s'installer en France. Je crois que le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre émigrant et immigrant en France, il est très proche de zéro. Il est quasiment nul, quoi. Beaucoup de jeunes s'en vont et vont tenter leur chance ailleurs, comme le font des personnes qui viennent s'installer en France et qui font le même parcours, à savoir tenter leur chance et s'installer dans un pays dans lequel ils pensent vivre mieux. Voilà. Le statut de réfugié, lui, il est extrêmement différent. Et un demandeur d'asile, du coup, par ricochet, est quelque chose, une catégorie à part, puisqu'il est défini de manière légale par un texte qui est une convention internationale qui s'impose aux États qui l'ont signé, la Convention de Genève de juillet 1951. Le fait d'avoir, pour la France et pour les pays qui l'ont fait, signé cette convention fait que ces États ont une obligation législative de reconnaître à un certain nombre de personnes qui viennent sur le territoire de ces pays-là un statut tout à fait particulier qui serait le statut de réfugié. Et en attendant de voir si oui ou non les personnes rentrent dans le critère du statut de réfugié, ces personnes sont considérées comme demandeurs d'asile. Un demandeur d'asile, donc, c'est quelqu'un qui sollicite ce statut de réfugié, qui est défini par la Convention comme étant une personne qui a quitté son pays et qui craint d'y subir des persécutions. Persécutions de cinq ordres, cinq types de persécutions, des persécutions motifs, alors dans le désordre, hein, je me souviens plus de l'ordre exact, mais au motif de ses opinions politiques. C'est pour ça qu'on appelle très souvent l'asile politique. C'était un petit peu une déformation, puisque les quatre autres motifs sont des motifs religieux. Quelqu'un qui a la mauvaise religion, qui n'a pas de religion dans un pays où c'est obligatoire d'en avoir une, ou qui a une religion dans un pays où c'est interdit d'en avoir une. Des motifs liés à la nationalité de la personne, des motifs liés à son origine ethnique, ce qu'on en appelait la race dans le texte de 1951. Bon, c'est un terme qui est un petit peu passé de mode maintenant, encore que dans certains milieux, on l'utilise pas mal. Surtout un motif qui est en train de devenir très important, c'est le motif de l'appartenance à un groupe social. Puisque dans la Convention de Genève de 1951, les femmes, par exemple, étaient totalement inexistantes. En 1951, les femmes n'étaient pas tellement existantes d'un point de vue politique, de manière générale. Et l'appartenance à un groupe social, c'est celui qui permet maintenant de plus en plus d'accorder une protection à des femmes qui sont victimes de violences particulières liées au genre. Voilà. Cette protection-là qui donc définit ce qu'est un demandeur d'asile a entraîné la mise en place d'une procédure d'instruction de ces demandes-là, le fait que des personnes qui disent « je veux avoir le statut de réfugié » sont considérées comme étant à part, en dehors du flot migratoire habituel. Ce ne sont pas des gens qui sont des touristes, évidemment. Ce ne sont pas des gens qui sont en France pour des motifs liés à à des motifs économiques ou des motifs simplement de vouloir se déplacer, puisque la Convention universelle des droits de l'homme permet aux gens de se déplacer, théoriquement, de s'installer où ils veulent. Hein. Mais c'est des gens qui veulent obtenir ce statut tout à fait particulier. Il y a une deuxième forme de protection qui s'est surajoutée à ça, qui date du début des années 2000, qui est ce qu'on appelle la protection subsidiaire, c'est-à-dire des gens qui ont un besoin de protection mais qui ne rentrent pas dans le cadre de la Convention de Genève et qui disent cependant être victimes d'atteintes, de menaces graves qui sont le fait de subir la mort, une peine de mort, une exécution, le fait de subir des traitements inhumains ou dégradants, et enfin, et c'est celui qui est en train de devenir le motif roi en ce moment, c'est le fait de fuir une situation de guerre, c'est-à-dire le statut que sollicitent la plupart des personnes qui viennent de Syrie ou d'Irak, qui fuient une situation d'actualité assez criante.
Alors, on entend justement que ces situations sont quelquefois difficiles à prouver, et on aimerait comprendre quel est le parcours du combattant, du demandeur d'asile, dès qu'il arrive en Europe.
Ah, effectivement, les situations se sont compliquées et elles n'arrêtent pas de se complexifier. Mais ça, d'une manière générale, le droit est quelque chose qui est de plus en plus complexe au fur et à mesure que les couches se surajoutent. Le parcours du demandeur d'asile, en théorie, il est relativement simple. C'est quelqu'un qui doit demander à l'administration française, aux autorités françaises, d'instruire sa demande. Il doit pouvoir présenter cette demande auprès d'un office spécialisé qui s'appelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui est donc une administration qui aujourd'hui dépend du ministère de l'Intérieur, qui a très longtemps été rattachée au ministère des Affaires étrangères. Voilà, c'est aussi une innovation récente, le ministère de l'Intérieur.
Et donc c'est un service ministériel et non pas...
C'est une administration. C'est une administration avec son propre conseil d'administration, mais dont la majorité des membres sont désignés par l'État.
Et donc pas des magistrats.
Mais par contre, comme toute administration, ces décisions peuvent être contestées. auprès d'une cour. Il existe une cour spécialisée qui s'appelle, depuis quelques années, depuis 2010, la Cour nationale du droit d'asile. Auparavant, ce que l'on appelait la commission de recours des réfugiés. Donc une juridiction, un tribunal, si vous voulez, avec des magistrats, essentiellement, uniquement des magistrats, enfin essentiellement des magistrats ou des personnes qualifiées qui ont le rôle de magistrats, qui reçoivent et instruisent ce que l'on appelle un recours qui est déposé par le demandeur d'asile, dont la demande a été rejetée par l'OFPRA, et qui souhaite néanmoins faire valoir son droit au statut de réfugié en attaquant la décision de droit, en expliquant que sa décision est une mauvaise décision et qu'il a effectivement un besoin actuel et personnel de protection. La CNDA, traditionnellement, a toujours reconnu beaucoup plus de protection que l'OFPRA.
D'accord.
Et pour illustrer un peu ces parcours, on va écouter un montage avec deux interviews qui ont été réalisées lors de la dernière permanence de l'ADA. Et ces deux personnes qui connaissent vraiment bien ce parcours parce qu'elles le vivent de l'intérieur. Vous allez voir, la première personne a obtenu le statut de réfugié, ce qui est vraiment, ce qui représente une minorité hein, extrême. Olivier nous en reparlera par rapport aux demandes. Il y a très très peu de personnes qui obtiennent ce statut. Et la deuxième personne qui est encore dans ce parcours du demandeur d'asile.
Je suis arrivé en France, c'était le 20 octobre 2013. Au début, c'était vraiment très difficile pour trouver un hébergement. Vraiment, j'ai passé des moments de galère. Mais il y a un ami qui m'a amené, qui m'a orienté pour demander mon asile. J'ai commencé d'abord à la Relève, à l'association La Relève. C'est là où on m'a pris un rendez-vous à la préfecture. Je suis allé à la préfecture. La préfecture m'a pris un rendez-vous au niveau de l'OFPRA, là où j'ai déposé ma demande d'asile. Et c'était après 6 mois que j'ai passé à l'OFPRA. C'était pas facile. D'abord parce que l'officier de l'OFPRA, elle était un peu dure envers moi. Elle était un peu dure. Donc moi, j'ai vite compris, c'était vraiment, c'est pour me faire échouer des questions qu'elle me posait. Parce qu'elle ne me laissait pas le temps de bien m'exprimer, de vraiment parler de ce que moi j'ai vécu. Quand je commence à répondre à une question, il me repose une autre question, j'ai pas fini, il repose une autre question. Donc là, j'étais stressé, j'étais en colère, donc c'est là qu'a fait que vraiment je ne puisse pas bien répondre. Je commençais à répondre n'importe quoi, et c'est là qu'il m'a refusé le statut. Voilà. J'ai fait un recours au niveau de la CNDA, avec l'aide des avocats et des juristes qui m'ont bien préparé. Alors vraiment, j'étais vraiment posé à toutes les questions qu'ils me posaient. Vraiment, j'ai répondu aux questions et j'ai bien expliqué. J'ai eu le temps de m'expliquer, de me détailler mon parcours. Et ils m'ont compris. Ils m'ont compris, voilà, j'ai eu mon statut. Le statut ne veut pas dire que la vie est plus facile parce que parce qu'après le statut, il y a encore une autre étape. Tu dois te former, tu dois travailler. Ce n'est pas du tout facile. Ce que je peux donner comme conseil aux gens qui sont encore en demande d'asile, il faut être sûr de ce que tu as vécu. Il faut prendre le temps de parler en détail, d'expliquer ce que tu as vécu. Voilà. Et puis la patience. Et ça va aller. Ça va aller. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Voilà.
Ben, moi, je suis arrivé en France fin août 2014. Je suis arrivé à Grenoble, depuis l'Espagne, à Melilla, cette terre où l'Espagne occupe encore depuis plus de 500 ans sur le sol africain. Et moi, je suis contre qu'il reste encore sur cette terre. C'est encore de la colonisation pour moi. Ils doivent dégager. C'est que ce n'est pas la seule partie de la terre où ils occupent. Ils occupent aussi Ceuta, vers Tanger, à Melilla, c'est en Andorre. Quand je suis arrivé, vu que je suis passé par l'Espagne, ils ont pris mes empreintes. Ils me disent, Écoutez, monsieur, c'est là le premier pays avec l'accord de l'espace Schengen, c'est où vous devez demander l'asile. Mais moi, ce n'était pas une chose que j'entendais. Elles m'ont laissé comme ça. Je suis resté pendant 6 mois à l'attente, la réponse de l'Espagne. Je suis arrivé une fois à la préfecture après une convocation. Ils me disent, écoutez, monsieur, l'Espagne a répondu, ils veulent bien vous reprendre. On est désolé. J'ai dit à la dame, ne soyez pas désolé. Parce que je ne compte pas me retourner. Je compte aller de l'avant. J'ai compris, moi ce que j'ai compris, même quand ils m'ont parlé de procédure Dublin, pour un peu décourager les gens, voir est-ce que tu as vraiment envie de rester ou que ben, tu es juste venu profiter un peu, partir. Moi c'est ce que j'ai compris, ben, me disant l'Espagne veut bien vous reprendre, je suis passé par l'Espagne, j'ai vu ce qui se passait en Espagne, je vois que l'Espagne elle se plaint elle aussi, elle dit que ouais, c'est la crise, ça va pas, ben. Et pour moi, c'était irrationnel. Ils me diraient, l'Espagne veut me reprendre. Je dis, écoute, raconte ce qu'ils veulent, mais moi, je n'entends pas ça et je ne vois pas ça. Après, ils me ramènent aussi une autre convocation. Messieurs, venez à la préfecture avec vos pièces d'identité, deux photos. Je suis arrivé à la préfecture, ben, on me donne le dossier à remplir pour l'OFPRA, de mettre mon récit de vie. À l'intérieur, ben, pourquoi le mobile, pourquoi j'ai quitté la Guinée. Ben, j'ai pris le dossier, je l'ai rempli avant les 21 jours, l'ai envoyé à l'OFPRA. Après, j'ai attendu aussi la convocation pour rencontrer l'officier. J'ai rencontré l'officier, l'interview, on l'a passé à Paris. Après 3 semaines, j'ai eu une réponse de l'OFPRA, un rejet, me disant, bah, écoutez, c'est pas crédible ce que vous dites, c'est pas personnalisé, c'est peut-être même exagéré dans votre histoire. On ne croit pas pourquoi est-ce que votre acte n'a pas été médiatisé, vos activités associatives, pourquoi ça n'a pas été médiatisé. On ne croit pas, ben, mais vous avez droit à un recours si vous voulez bien saisir le Cour national 3 d'asile pour passer votre recours. Après la notification de rejet, qui était le 29 septembre, j'avais juste un mois pour écrire. J'ai réécrit au président de la Cour nationale du droit d'asile, disant, ben, écoutez, les points sur lesquels l'officier n'est pas convaincu, ben, je les ai retournés aussi. Ben, si elle n'a pas compris, c'est ce que je veux le dire. Ben, pour ce qui est plus de preuves, vous voulez, donnez-moi le temps. Je vais réunir les preuves et je vous les enverrai aussi. Là, j'ai envoyé la lettre de recours et là, j'attends une lettre ou une confirmation qu'ils ont bien reçu la lettre, que je peux augmenter les preuves. Il y a vraiment des obstacles pour arriver où tu veux aller. Il y a des États africains qui jouent aussi avec le système européen. L'exemple, je vais dire, c'est genre le Maroc, l'Algérie. Ils font la marionnette de l'Espagne, ils font la marionnette de la France, de l'Allemagne. Mais ce n'est rien parce qu'ils ne vont pas pouvoir contrer la loi de la vie. Elle va s'appliquer. Je vois une inégalité totale à l'intérieur, une injustice humaine. Ils veulent mettre en concurrence même entre les demandeurs d'asile qui ont subi des violences partout d'où ils viennent, que ce soit l'Asie, de l'Afrique, partout. Quand je parle de l'inégalité, c'est entre les Syriens et les Africains qui arrivent aujourd'hui en Europe. Aujourd'hui, il n'y a vu que demandeur d'asile seulement que le Syrien. Et ça, c'est... Moi, je dirais c'est absurde, c'est totalement absurde qu'ils arrêtent. Le mieux à faire, ce serait d'ouvrir toutes ces frontières, d'enlever toutes ces barrières. Ils ne gaspillent pas leur énergie, leur argent pour dire on va se faire encore des lois, on va faire des murs. Ils se disent qu'on va être envahis, il faut trier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça ne sert à rien. Il y a des gens vraiment qui ont besoin d'être protégés, qui sont malades, qui ont subi des choses inhumaines, qui ont été déshumanisées totales. Peut-être il y aura bien sûr des gens qui vont m'écouter, qui vont écouter ma voix, qui vont l'entendre. Je vais leur dire de rester humains, de voir l'autre comme un être humain, qu'il dépasse les conditionnements dans lesquels il se retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est conditionné par des propos, par des visions de foi. Mais il essaye de dépasser cela, de voir plus haut la chose, de rester humain, quoi, et puis...
Vous êtes toujours sur News FM 101.2 pour l'émission Micro-ondes, l'émission qui vous tient à contre-courant. On vient d'écouter donc deux interviews qui ont été effectuées à la dernière permanence de l'ADA, accueil demandeurs d'asile, qui revenait un peu sur les parcours des demandeurs d'asile, entre autres, avec analyse politique en plus. Et ça a été suivi par la chanson « Living in the Positive » de Nasio Fontaine. C'est une chanson qui a été choisie par la dernière personne qu'on a interviewée. Et on peut imaginer qu'en effet, il faut être capable de voir le côté positif des choses pour réussir à traverser tout ce parcours-là. Et du coup, on redonne la parole à Olivier de l'ADA, qui nous fait le bonheur de venir sur le plateau pour la première émission et pour répondre à nos questions.
Voilà, et Olivier, est-ce que tu as déjà des réactions par rapport à ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, le premier entretien était vraiment bien. Pour quelqu'un déjà qui a le statut de réfugié, c'est tellement rare qu'on ne peut que s'en féliciter. Il retraçait les conditions dans lesquelles l'OFPRA, qui est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, instruit les demandes qui leur sont présentées, et ils sont extrêmement tatillons. Ça se passe au cours d'une audition, d'un entretien en tête-à-tête avec un officier de protection. La personne qui était interviewée nous racontait qu'on lui avait exigé d'elle de présenter des détails, des précisions qui étaient sans fin. Lui disait que la seule manière véritablement de s'en sortir, c'est de répondre de la manière la plus précise, la plus honnête possible, en revenant sur son parcours. C'est quand même pas toujours évident de raconter comme ça quelqu'un qu'on ne connaît pas, dans un contexte qui est assez particulier. Les entretiens se passent dans des tout petits bureaux, c'est assez sonore, il y a plein de bruit, on parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on ne rencontrera plus jamais, qui prend des notes en même temps. Il faut parler de choses qui sont extrêmement intimes, lorsqu'on a été victime de violence, lorsqu'on a été victime d'une arrestation, de torture, de choses comme ça, c'est parfois des choses qu'on n'est pas tout à fait prêt à raconter immédiatement. Il existe une exigence de l'OFPRA et de ses institutions, notamment sur le fait que ces institutions doivent être convaincues, qui sont à un niveau extrêmement élevé. La deuxième personne qui était interviewée et qui a malheureusement été rejetée, mais qui est en train de déposer un recours auprès de la Cour nationale des droits d'asile, est quelqu'un qui parle aussi du temps qui est laissé. Et ça, cette notion de temps, elle est fondamentale. Elle est fondamentale d'une part parce que, effectivement, traverser le traumatisme subi et arriver à l'exprimer dans les critères qui sont attendus des demandeurs d'asile, et qui ne sont pas forcément les mêmes qu'eux pourraient connaître culturellement, c'est difficile. On exige des preuves des demandeurs d'asile, on exige qu'ils soient capables d'expliquer de façon cohérente des choses qui sont compliquées, et ça demande du temps, tout ça. Or le problème, c'est que les différents efforts de l'État en matière de réforme visent justement à limiter ce temps, à faire en sorte que les procédures de demande d'asile soient le plus courtes possible. La dernière réforme qui est mise en œuvre, dont on va probablement parler tout à l'heure, c'est une réforme qui vise à diviser par deux le temps total d'instruction des demandes d'asile, c'est-à-dire, pour les demandeurs d'asile, d'autant moins de temps à se préparer à ces examens, ces audiences, tout ce parcours du combattant à travers lequel ils vont devoir passer et qui sont vraiment pas faciles à aborder.
Est-ce que tu as des chiffres sur l'OFPRA? Je rappelle que c'est l'Office français des réfugiés apatrides, pour la protection des réfugiés apatrides. Est-ce que tu as des chiffres de combien ils reçoivent de demandes, combien sont instruites réellement et combien sont acceptées?
Oui, alors les chiffres, le nombre de nouveaux demandeurs d'asile chaque année, il fluctue énormément. C'est la première chose à garder en mémoire. C'est-à-dire que les différents gouvernements nous parlent de dispositif à bout de souffle, d'une croissance permanente du nombre de demandeurs d'asile. C'est absolument faux. D'une part, notre dispositif n'est pas à bout de souffle, il est très mal géré, c'est tout. Deuxièmement, le nombre de demandeurs d'asile, effectivement, il croît chaque année, puisqu'il y a de nouveaux demandeurs d'asile chaque année. Donc, par essence, ça croît. Après, cette croissance n'est pas une croissance exponentielle. On n'est pas dans une hyperbole avec un nombre croissant de demandeurs d'asile nouveaux chaque année. C'est absolument faux. Le nombre de demandeurs d'asile, il fluctue énormément. Il peut passer du simple au double en l'espace de 5 ans, ce qui est le cas. 2003, c'était 30 000 nouveaux demandeurs d'asile. 2007, c'était 60 000 nouveaux demandeurs d'asile. Et là, en 2014, le nombre total de demandeurs d'asile a décru en France. Il a baissé. Le deuxième chiffre qui est intéressant, c'est celui de reconnaissance du statut de réfugié par l'OFPRA. L'OFPRA a traditionnellement, depuis une vingtaine d'années, c'est quelque chose qui a beaucoup changé dans les années 80, puisqu'auparavant, avant cela, les années 70, 90% des demandeurs d'asile, en gros, obtenaient le statut de réfugié. Depuis les années 80, la tendance est plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que l'OFPRA reconnaît le statut de réfugié à, au bon an, mal an, entre 10 et 15% des personnes qui viennent le solliciter. Les 85-90 autres pourcents de demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée déposent des recours. Et là, autre fait absolument marquant qui est assez structurel aussi, c'est que la Cour nationale du droit d'asile, la juridiction, le tribunal qui juge des décisions d'OFPRA, reconnaît plus de statuts de réfugiés que l'administration elle-même. La CNDA, traditionnellement, reconnaît entre 15 et 20% de statuts de réfugiés, ce qui aboutit à une proportion totale de personnes reconnues d'une trentaine de pourcents par an. Voilà. Sur 100 demandeurs d'asile, une trentaine obtiendront le statut de réfugié ou ce qu'on appelle la protection subsidiaire. Cette inversion, le fait que la juridiction reconnaisse plus de statuts que l'OFPRA, c'est quand même quelque chose qui pose question à l'administration. Alors, il y a eu un petit cri de victoire l'année dernière qui a été vite étouffé. Un petit cri de victoire de l'OFPRA l'année dernière, lorsque tout d'un coup, en 2014, ils ont réussi à raccorder plus de statuts que la Cour nationale du droit d'asile. Alors, un directeur général me disait partout, vous voyez, ça veut dire qu'on fait mieux notre travail, qu'on instruit plus profondément les demandes, que les demandes qui nous sont présentées sont mieux présentées, etc. Oui, alors il y a eu l'effet érythréen et il y a surtout eu l'effet Syrie. Les personnes qui viennent demander de l'asile en provenance de Syrie ou d'Érythrée sont des gens à qui le statut, à partir du moment où l'OFPRA reconnaît leur nationalité, est quasiment automatiquement accordé. Donc, l'année dernière a été avec une trentaine de pourcents au total et environ 14% de reconnaissance du statut par l'OFPRA, a été une année un peu exceptionnelle. Cette année, ce ne sera probablement pas le cas.
Parce que, en fait, on pourrait peut-être parler d'ailleurs en deux mots de l'espace Schengen et de Dublin, hein, mmh. C'est-à-dire la Convention de Dublin, qui, pour expliquer un peu ce qui se passe, parce que nous, on a un peu de mal à se faire à comprendre actuellement, derrière tous les mots qu'on entend, on parle d'afflux de migrants, d'afflux de réfugiés, à quelle réalité ça correspond, hein, et est-ce que tu peux expliquer ce qui est en train de se passer actuellement en Europe, parce qu'on a l'impression que ça évolue.
Est-ce que d'abord, en fait, justement, toujours sur cette thématique de l'afflux de migrants et de réfugiés, on peut lancer le sujet juste avec un petit enregistrement donc d'un citoyen grenoblois qui nous parlait justement de ces chiffres donnés du coup par Frontex. Voilà, du coup Frontex, qui, je le rappelle, est donc une coordination des armées et des polices des pays européens pour la surveillance des frontières. Et donc c'est principalement Frontex qui donne les chiffres de l'immigration en France puisqu'ils sont chargés de la surveillance de ces frontières. Voilà, un petit témoignage à ce propos et puis on rebondit tout de suite après justement sur l'afflux migratoire, entre guillemets.
L'afflux migratoire, vous voyez le nombre de gens qui se présentent en Europe illégalement, c'est repris par les médias, alors c'était 700 000 il n'y a pas très longtemps, là aujourd'hui ou hier c'est 800 000. Depuis le début de l'année, personne qui aurait franchi illégalement les frontières et qui aurait été comptabilisé par Frontex, mais là justement il y avait un universitaire qui s'appelle Nando Sigona, en anglais, qui s'est demandé mais en fait comment ils font pour compter Frontex ces personnes-là, et du coup... Et lui, il a eu comme pressentiment qu'ils étaient comptés potentiellement plusieurs fois. Donc il a demandé aux gens de Frontex de s'expliquer là-dessus. Il a dit « Une même personne peut traverser les frontières extérieures européennes à plusieurs reprises, n'est-ce pas ?» Et Frontex, on lui a dit « Eh ben oui, c'est ça, il y a un grand nombre de personnes qui ont été enregistrées une première fois en Grèce et le sont une nouvelle fois lorsqu'ils arrivent en Hongrie ou en Croatie. » Donc sous-entendu que ben potentiellement, on serait à plus du double, on n'en sait rien. Je suis allé voir sur Google le nombre d'occurrences de l'expression afflux de migrants. Parce que bon, on connaît crise migratoire et crise des migrants depuis quelques temps, là. C'est vraiment un terme du jargon journalistique, là. Donc, par exemple, crise migratoire et crise des migrants qui est un peu plus vieux, on a sur Google 757 000 occurrences. Et, crise des migrants, par exemple. Et alors, afflux de migrants, qui est un truc qui a explosé en deux mois, là. Il y a quand même 351 000 occurrences de afflux de migrants sur Google et 377 000 de afflux de réfugiés. Et quand on regarde en vrai sur le dernier mois, tous les médias de mainstream titrent plusieurs fois dans le mois un article où il y a afflux de migrants dans le titre. Et par exemple, Le Monde, sur un mois, 27 fois afflux de migrants dans un article. C'est-à-dire que tous les jours, il y a un article qui titre ou qui mentionne en gros dans l'article « Afflux de migrants ». Ce qui veut dire que, bon, on a des doutes sur le fait que, par exemple, cette sémantique alimente un imaginaire un peu de l'invasion depuis quelques semaines, bah, si on regarde un peu ce qui se passe et ce qui sort dans la presse, on n'en a plus, quoi.
Donc, Yannick, excuse-moi, Olivier, est-ce que l'Europe est vraiment en état de siège? Est-ce que la France est en état de siège? Est-ce que les immigrés, les migrants viennent en direction de la France, de l'Europe? Et comment ça fonctionne, alors, en deux mots, ce système Schengen?
Oh, je dirais même plus qu'un état de siège. On est en état de guerre, là. C'est une guerre ouverte, c'est une guerre aux migrants. Vous avez entendu parler du garde-frontière bulgare qui avait tiré et abattu un jeune Afghan qui traversait la frontière. Les gardes-frontières grecs n'hésitent pas à couler des Zodiacs qui essayent de traverser en perçant la coque des Zodiacs, enfin, en dégonflant au milieu de la mer. Non, c'est un véritable état de guerre. C'est pas du tout une question d'état de siège. Enfin, du point de vue de nos gouvernants. On est en train de faire face à quelque chose qui est assez particulier cette année. Enfin, en 2014 et 2015, c'était la guerre en Syrie, les suites de la guerre en Irak, avec effectivement la venue relativement massive de demandeurs d'asile sur le territoire de l'Union européenne. En 2015, on s'attend à ce qu'un million de personnes arrivent en Europe et demandent le statut de réfugié dans l'un des États de l'espace Schengen, justement. On peut vraiment parler statistiquement d'un afflux de demandeurs d'asile cette année. C'est assez inattendu. Le truc, c'est qu'ils ne viennent pas en France. Et ça, on a du mal à comprendre pourquoi. Enfin, nous, quand on travaille sur le terrain, on sait pourquoi les gens ne viennent pas en France. C'est tout simplement parce que les conditions d'accueil en France sont absolument déplorables et que je parlais tout à l'heure de niveau de reconnaissance d'une protection par les autorités françaises qui est de 30%. En Allemagne, c'est presque 50% de reconnaissance du statut. En Suède, 60% des personnes qui viennent demander l'asile obtiennent le statut de réfugié. À titre anecdotique, la Roumanie reconnaît 85% du statut aux personnes qui viennent demander. Il y a peu de monde qui va demander l'asile en Roumanie, mais enfin, quand même, c'est quand même quelque chose. La France a l'un des plus mauvais taux de reconnaissance du statut de réfugié en Europe. Les gens qui investissent toute leur vie, leur existence même, dans le fait de venir en Europe, ne vont pas venir en France pour dormir dehors, comme le disait le reportage précédent avant mon arrivée, ou pour se voir débouter de leur demande de statut de réfugié. Ils vont voir ailleurs. Et pour cela, Schengen, Dublin, etc., posent à la fois des possibilités et un piège assez phénoménal.
Et au milieu de tout ça, donc l'Europe part en ordre dispersé avec chacun. On a l'impression qu'il n'y a plus d'Europe à ce niveau-là. Si toutefois il y en a une auparavant.
Ça, c'est une autre question. Peut-être qu'on va en parler aujourd'hui de la question est-ce que l'Europe existe. L'Europe existe de plus en plus pour ce qui est du statut, du droit d'asile et du statut de réfugié. C'est la réforme qui est en application depuis le début de cette semaine, depuis le 1er novembre, est issue de transformations législatives à l'échelle de l'Union européenne. Tout à l'heure, on parlait de Schengen, de Dublin. Il y avait le deuxième interviewé nous a fait un long discours sur ce que représentait Dublin. Je pense que ça demande quand même quelques explications, tout cela, parce que c'est un petit peu au cœur du problème actuel.
On a le temps.
Voilà, Schengen est un espace de liberté, de circulation des biens, des marchandises et des personnes. Et alors le corollaire de Dublin pour le droit d'asile, c'était est-ce que oui ou non l'Union européenne va permettre aux demandeurs d'asile de se balader en Europe comme le feraient des citoyens européens? Eh bien, l'Europe en a décidé que non. Le dispositif Dublin, qui est en fait le résultat d'un règlement, on est au troisième niveau de règlement, il y a eu une première convention en 1991, un premier règlement en 1993, un deuxième règlement en 2003, et on est au troisième règlement en 2013, donc ça veut dire que ce règlement fonctionne mal, puisqu'on doit le revoir, en gros, tous les 5 ou 10 ans. Ouais, ça ne marche pas très très bien. Le règlement Dublin, c'est un règlement qui prévoit quel est l'état de l'espace Schengen responsable de quel demandeur d'asile. Un demandeur d'asile qui entre sur le territoire Schengen, donc grosso modo l'Union européenne plus la Suisse, est-ce qu'il y a toujours un état responsable de recevoir cette personne et de décider si oui ou non il a le statut de réfugié, et est-ce que cette personne-là a le droit de se balader dans l'Union européenne et d'aller faire des demandes d'asile un petit peu partout? La réponse est premièrement oui, il y a toujours un état responsable. Les critères sont absolument incompréhensibles pour le commun des mortels, mais il y a toujours plus ou moins un état responsable. Et la réponse à la deuxième question, c'est est-ce qu'un demandeur d'asile a le droit de se balader? La réponse est malheureusement non. Puisque seul un seul État est responsable de l'instruction, donc cette personne ne peut demander que dans cet État-là. Mais le problème est que le problème de deux ordres. Le premier, c'est que Dublin est une véritable usine à gaz. Ce règlement est est inapplicable. En France, par exemple, seuls 10% des personnes qui doivent être renvoyées vers un autre État parce que la France ne s'estime pas responsable, seuls 10% de ces personnes sont effectivement renvoyées, les autres restent en France. Dublin est aussi inapplicable parce que c'est une question de délai, enfin c'est d'une complexité absolument pharaonesque ce truc-là. Donc en réalité, l'administration française n'arrive pas à le mettre en place, les administrations des autres États n'arrivent pas à le mettre en place non plus. Deuxièmement, le deuxième gros défaut de ce règlement Dublin, c'est qu'à aucun moment on ne pose la question aux migrants: où voulez-vous demander l'asile? Vous entrez sur le territoire de l'Union européenne, est-ce que vous préférez votre demande d'asile en Suède, vous avez de bonnes chances de l'avoir, ou en France, où vous n'avez pas beaucoup de chances de l'avoir? Si on posait la question aux migrants, les choses seraient peut-être beaucoup plus simples.
Et puis, dans quel pays voulez-vous vivre aussi, j'imagine?
Oui, bien sûr, oui, ça va après, oui. Quelqu'un qui fait une demande d'asile, pourquoi est-ce que sur le million à peu près de demandeurs d'asile attendus sur l'Union européenne, pourquoi est-ce que le tiers, plus de 300 000 personnes, 350 000 personnes vont en Allemagne? C'est tout simplement parce que, primo, les conditions d'existence en attendant d'avoir le statut de réfugié sont beaucoup plus favorables, et deuxio, la possibilité pour ces personnes-là d'avoir un travail, un emploi, de pouvoir reconstruire leur vie alors qu'ils ont tout perdu et tout abandonné en arrivant sur l'Union européenne. Des gens qui pouvaient être médecins, qui avaient des niveaux de vie relativement élevés, pour certains d'entre eux, ont tout abandonné. Les gens qui avaient un niveau de vie plancher, partent avec le peu de choses qu'ils avaient, et ils espèrent tous pouvoir reconstruire leur vie. Le statut de réfugié ne permet pas simplement, comme le disait l'une des personnes interviewées tout à l'heure, c'est un statut. Il faut après tout reprendre à zéro. En Allemagne, on peut trouver du boulot. En France, c'est difficile. Tout est difficile.
Et Angela Merkel a dit qu'elle allait accueillir 1 million de réfugiés.
Oui, c'est possible. Après, est-ce que politiquement elle va y arriver? Ça, c'est autre chose.
Par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau de la réforme du statut des réfugiés en France, et des procédures en tout cas, qu'est-ce que ça va simplifier ou est-ce que ça va encore complexifier et durcir les conditions d'accueil?
Alors, je parlais tout à l'heure d'usine à gaz pour ce qui est Dublin. Ça y est, on en a une petite usine à gaz en France aussi. Tout à l'heure, en préambule à ce que j'expliquais, je disais que le droit d'asile est quelque chose qui n'arrête pas d'être de plus en plus compliqué. La première loi date de 1952, elle était relativement simple. Une personne arrive en France, demande le statut de réfugié, doit solliciter l'OFPRA, qui dit oui, qui dit non. Si c'est non, on va voir la commission de recours des réfugiés et basta. Là, les choses n'ont pas arrêté d'être compliquées. Et la dernière réforme qui commence depuis le 1er novembre à être mise en application et qui est réfléchie, je suis pas sûr que ce soit le bon terme. En fait, la réforme qui est en cours d'élaboration depuis l'automne 2014, qui a été revue maintes fois devant le Parlement, qui a été discutée lors de concertation avec les associations, avec des juristes, des choses comme ça. Ça a duré tout l'automne 2014, ce truc-là. 2015, tout le processus législatif, avec des amendements, des propositions, des retraits. Alors, l'amendement devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, puis des amendements devant qui ont été plus ou moins acceptés ou retirés, des amendements devant le Sénat. Bref, il y a eu une foire d'empoigne autour de la question des réfugiés, aussi parce que tout d'un coup, avec l'arrivée massive de demandeurs d'asile, sur le territoire européen, ça prenait une actualité assez criante. Bon, au final, on est arrivé avec un texte qui voulait simplifier les choses et surtout accélérer le processus et qui, en réalité, aboutit à un texte d'une complexité. Le texte lui-même est incompréhensible et sa mise en application, je ne sais pas quelle forme elle va prendre, mais enfin, depuis lundi, on ne comprend plus rien. Un demandeur d'asile est censé maintenant passer par la préfecture et il s'y passe un certain nombre de choses. Les gens sortent avec des documents qui leur donnent droit à pas grand-chose. On ne sait toujours pas de quelle manière ils vont effectivement saisir l'OFPRA. Les gens sont embarqués dans une forme de procédure qui peut changer en cours de route selon des modalités que lui a du mal à comprendre. D'abord, il y a très très peu de chances pour que cette réforme améliore réellement le sort du demandeur d'asile pendant son trajet en France en tant que demandeur, jusqu'à ce qu'il obtienne ou pas une protection. Deuxièmement, les structures qui accompagnent, les structures qui vont décider, enfin tous les gens qui sont autour de la demande d'asile se demandent de quelle manière ils vont véritablement pouvoir intervenir dans tout ça.
Olivier, pour finir cette interview, est-ce que on aurait une note optimiste à mettre en fin d'interview?
Oui, la note optimiste, c'est la mobilisation que l'on observe au sein de la population française et notamment au sein de la population grenobloise. Nous, on a été absolument épatés par alors on s'y attendait un petit peu, mais pas à ce niveau-là, quoi. Par la manière dont les gens, les Français, les Grenoblois ont réagi au même titre que les Allemands. Je pense que c'est surtout en regardant ce qui se passait en Allemagne lors de l'arrivée de 20 000 personnes en un week-end en Allemagne, où les gens se sont tout d'un coup saisis de la question du réfugié. Le nombre de personnes qui maintenant viennent solliciter, alors là, on parlait tout à l'heure de la mairie de Grenoble, voilà, bon, la mairie de Grenoble entre autres, mais aussi d'autres mairies du département, pour proposer une aide, un soutien, pour proposer parfois une chambre, un hébergement. Ce sont des choses qui n'ont jamais eu lieu jusqu'à maintenant. On n'a jamais vu ça. Des gens qui téléphonent spontanément aux mairies en disant « Ah bah tiens, j'ai une chambre chez moi, je peux accueillir une famille, ou alors je peux laisser squatter des gens dans mon garage. » Même à ce niveau-là, ça n'existait pas. À l'ADAP, par exemple, l'association pour laquelle je travaille, depuis le mois de septembre, 70 personnes sont venues se proposer comme bénévoles. On tournait jusqu'à maintenant avec un volant d'une trentaine de bénévoles qui étaient plus ou moins impliqués dans la vie de l'association. Là, maintenant, on se retrouve avec presque 100 bénévoles du jour au lendemain. On ne sait plus comment gérer nos bénévoles, pour être honnête. Mais voilà, c'est tout cet afflux de solidarité qui est le point positif. Alors, ce que l'on espère, évidemment, comme tout le monde, c'est que ça ne sera pas un feu de paille, que ça ne va pas s'éteindre à la faveur des prochaines élections et puis mourir tranquillement en 2016. Et que c'est quelque chose, un mouvement de fond qui va se maintenir pour l'année prochaine au moins, et puis plus tard.
Bon, ben, merci Olivier, pour, à la fois pour toutes ces explications, ces commentaires, et puis pour ton action au sein d'ADA.
Merci à vous, Maman.
Merci, et bien sûr, tu peux rester avec nous pour le reste de l'émission. Et c'est toujours micro-ondes. Vous avez entendu Yaraya, interprété par Rachid Taha, un classique de la musique pop algérienne.
C'est donc une chronique un peu paradoxale, entre guillemets, après la note d'espoir justement qui était donnée par Olivier sur cet élan de solidarité et ces personnes qui donnent un garage ou qui proposent une chambre pour héberger des migrants ou en tout cas qui s'avèrent un peu sensibles à l'arrivée de personnes syriennes ou de personnes fuyant les conflits. Et puis, du même coup, d'autres voisins qui, justement, continuent, d'autres riverains et d'autres personnes qui continuent de s'indigner contre leur voisinage, essentiellement lorsqu'il s'agit de Roms ou de gens du voyage. Et alors, voilà que nos grands dirigeants font de grands discours, et ben, on a décidé, nous, de parler aussi de ces situations problématiques, d'abord pour les faire sortir de la rubrique fait divers, entre guillemets, dans laquelle ils sont trop souvent confinés, relégués, mais aussi pour montrer la logique commune de l'ensemble de ces événements qui se sont passés donc cet été et cet automne à Grenoble, de montrer un peu leur effet pervers. Cette chronologie, elle commence tout d'abord à Fontaine, sur le boulevard Joliot-Curie. Une maison était squattée donc par des familles roms, une maison appartenant à la mairie de Fontaine. Ces familles sont présentes depuis très longtemps sur l'agglomération et justement errent de campement en squat, errent de tente en chambre d'hôtel pendant 3 jours. Les voisins ont tout de suite été très virulents contre cette occupation. Rassemblement, menace d'expulsion manu militari, pression sur la mairie en organisant des délégations, des manifestations, des pétitions. Comment la mairie a-t-elle réagi? On peut dire justement en allant plutôt dans le sens de ses voisins et en jouant leur jeu. D'abord justement en coupant l'électricité alors que les toilettes étaient un sani broyeur, mais également bien sûr en expulsant la maison le plus rapidement possible, en expulsant la maison dont elle était propriétaire et en brûlant toutes les affaires des personnes, des familles qui avaient laissé leurs affaires dans la maison, prétextant du coup la présence de maladies et renforçant encore ces mythes et cet imaginaire d'insalubrité. Ça continue ensuite avec l'expulsion du camp d'Esmonin. Esmonin est donc du coup un bidonville qui s'était construit autour d'un rond-point au sud de Grenoble. Et la mairie de Grenoble avait justement au départ eu un discours politique plutôt intéressant et plutôt conciliant en essayant de lutter contre les imaginaires et justement en adoptant une réponse pragmatique, en estimant qu'une évacuation massive du camp serait de toute façon inefficace. Sauf qu'au bout d'un moment, elle a cédé justement à la pression et elle a décidé alors la destruction du camp. Elle a donc également retourné sa veste et son discours en argumentant sur l'émergence de réseaux mafieux, de prostitution sur le campement, ainsi que, encore une fois, sur cette soi-disant insalubrité. Elle a de plus renforcé la stigmatisation des Roms en disant qu'il s'agissait uniquement d'un campement de la communauté Rom, alors que tous les habitants n'en étaient pas. Ce sont donc 400 personnes qui se sont faites expulser, sans aucune solution de relogement, et qui se sont faites également visibiliser justement comme le problème à Grenoble.
Il y a eu quand même 80 relogés par la préfecture et par le CCAS de Grenoble.
Voilà. Donc 320 restés sur le carreau.
Voilà, tout à fait.
Et 320 du coup qui continuaient justement de chercher des solutions, puisque c'est pas parce qu'on expulse avec des bulldozers ou des policiers que la pauvreté disparaît, et les personnes qui vivent du coup évidemment toujours sur l'agglomération grenobloise se sont donc mises en quête de différents abris, campements, tentes dans les parcs et occupations de bâtiments. Ça a commencé justement à La Tronche, où un bâtiment public de l'EPFL avait été squatté, un bâtiment qui était vide et qui s'est fait expulser très rapidement et illégalement par des élus aidés par des policiers en civil. Ces élus avaient d'abord menacé qu'ils aimeraient bien brûler la maison, etc. Puis ils ont eux-mêmes procédé à l'expulsion de manière illégale. Et lorsque les habitants leur ont dit que cette procédure était illégale et qu'il ne pouvait y avoir d'expulsion de bâtiments sans procédure juridique, ça les a fait rire. Si les élus municipaux rigolent alors devant la loi, pourquoi les voisins s'embarrasseraient-ils de si peu? En effet, quelques jours plus tard, une action semblable et tout aussi illégale s'est passée à Ébens. Une maison vide appartenait à la mairie d'Ébens et fut occupée par une famille. Alors que la mairie était conciliante et proposait un relogement rapide de la famille dans un logement plus adapté, Les voisins, eux, étaient très virulents. Et en fin de journée, alors que la mairie est partie en laissant les habitants dans la maison, les voisins, eux, sont revenus avec des amis qu'ils avaient appelés. Ils sont revenus à 15, avec des tessons de bouteilles et des briques. Ils ont d'abord agressé des personnes en soutien qui étaient dans la rue devant la maison, puis sont rentrés dans la maison, en forçant la porte et en obligeant le père de famille qui était dans la maison à sauter du balcon de 2,50 m. Un père de famille qui justement a eu de la chance de s'enfuir des mains de ses agresseurs. On ne sait pas aujourd'hui ce qu'il serait devenu si jamais il s'était fait agresser. Ensuite, ils ont lancé un fumigène dans la maison et refusaient que la famille revienne pour récupérer ses affaires. À Saint-Martin-Terre, même scénario. Une famille investit une maison vide qui était vide depuis 2 ans et qui appartenait à un propriétaire privé. Le propriétaire réunit ses voisins en les appelant d'abord à défendre sa maison, puis à défendre le quartier contre les Roms. Ils ont organisé une manifestation en demandant l'expulsion du logement. Et alors que cela avait été réclamé et que des soutiens et la famille étaient allés à la mairie justement en leur demandant de faire la médiation entre cette famille et entre le reste du quartier, la mairie n'a pas fait cette médiation et elle a laissé une manifestation spontanée et du coup illégale entre guillemets s'organiser. Et cette manifestation a mis justement la famille à la rue. Et lorsque la famille est partie, sous les applaudissements, sous les saluts nazis, et qu'elle avait les larmes aux yeux, certains manifestants leur ont dit « Ne pleurez pas, madame, c'est la meilleure des solutions. » Quelle est la meilleure des solutions, si ce n'est remettre encore une fois une famille à la rue, une famille qui l'est depuis trop longtemps?
Et peut-être, comme on parlait au début, un des objectifs de notre émission, c'est de faire entendre une autre voix, un autre point de vue. C'est que particulièrement sur cette expulsion à Saint-Martin-d'Air, on a été vraiment choqués par la façon dont ça a été traité, notamment dans le Dauphiné libéré, où la journaliste, en conclusion, disait « En fait, c'est une magnifique leçon de solidarité, donc solidarité entre les voisins, et c'est une histoire qui termine bien pour tout le monde, puisque la famille a été relogée 3 jours en hôtel, hein, du coup, est-ce que c'est une fin heureuse? Je ne sais pas. » Et ça, c'est vraiment ce genre de choses qui n'est pas assumé, qu'en fait, il y a des choses qui se passent et qui font pas du tout résonner le meilleur de chacun d'entre nous, quoi. Ce qui s'est passé à Saint-Martin-d'Air, c'était vraiment effrayant et on a vu un mélange de personnes qui sont vraiment des fascistes organisés qu'on connaît par leur présence sur Internet et des voisins qui sont juste pris dans cette espèce de marasme en ce moment autour de, bah voilà, de ce que c'est les Roms, de soi-disant ce qui ferait un quartier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut essayer de casser. Et heureusement, par la suite, on a aussi pu rencontrer des voisins qui étaient solidaires et qui essayaient de construire autre chose.
C'est ça. En l'occurrence, ni les voisins, ni les médias, ni la mairie à ce moment-là n'ont pris justement la peine de réellement dénoncer le racisme aussi qu'il y avait dans cette manifestation et dans cette expulsion illégale, encore une fois, d'une maison. Ces mêmes pouvoirs publics locaux, justement, essayent aujourd'hui de faire vite, avec un certain cynisme, de faire vite avant que la trêve hivernale du coup ne rende compliquée les procédures, ne rende un peu plus compliquées les procédures d'expulsion, de campement, de squat et de bâtiments vides, etc. Donc ces pouvoirs publics justement ont essayé au contraire de faire vite et d'expulser le maximum de terrain avant l'arrivée de la trêve hivernale qui, on le rappelle, était donc le 31 octobre dernier. D'abord sur le terrain d'un ancien garage proche de la bifurque à Grenoble, où les élus ont bien évidemment très rapidement pris soin de reboucher toutes les entrées avec d'immenses cailloux, de retourner tout le terrain avec des bulldozers pour éviter une possible réinstallation. Cette même mairie de Grenoble, qui avait déjà expulsé du coup à la bifurque, est plus tard revenue et a récidivé là encore avec un certain cynisme en expulsant des familles hébergées dans des chambres d'hôtel. Ces chambres d'hôtel étaient donc payées par le CCAS de Grenoble et ces familles ont donc dû quitter les lieux précipitamment puisque le CCAS a tout bêtement décidé d'arrêter de payer les chambres d'hôtel juste avant la trêve hivernale. Ce qui est illégal car cela ne respecte pas du coup l'obligation de continuité de l'hébergement, c'est-à-dire quand une personne est hébergée, on ne peut l'expulser sans lui proposer de nouvelles solutions d'hébergement. Lorsque cela fut signalé, la mairie a répondu qu'elle le savait pertinemment, mais estimait que ses chances de poursuite étaient trop faibles et avait peu de chances d'aboutir. Elle prenait donc ce risque sans aucun scrupule et sans aucun problème. Cette même ville de Grenoble qui était allée chercher, on le rappelle, dans l'été, son titre de ville solidaire. À Échirolles, enfin, pour terminer cette chronologie sordide, le 27 octobre, un scénario similaire s'est produit. L'évacuation d'un campement et l'expulsion de 120 personnes, parmi elles 75 enfants. Lorsque les habitants sont venus, eux, protester contre leur expulsion et demander la possibilité peut-être d'un relogement ou au minimum d'établir un campement par exemple sur un autre terrain ou en tout cas de protester contre cette expulsion, la mairie n'a pas daigné descendre les rencontrer. Elle a préféré ordonner à la police nationale de charger les familles
Et oui, peut-être pour préciser, ce qui s'est passé ce jour-là qui était fou, c'est que suite à l'expulsion du campement, du coup, les gens se sont rendus à la mairie, avec accompagnés notamment de Rome Action et de d'autres collectifs, la Patate Chaude, Hébergement Logement. Et donc là, on a dit, bien sûr, mesdames qui avez des enfants, asseyez-vous dans le hall sur les chaises, on va chercher une salle, on va vous recevoir. Et la plus nouvelle, et qui sait qu'arrive, 4 fourgons de la police nationale, et qui sort tout le monde en quelques secondes, très rapide, assez violemment, donc avec les poussettes, les enfants. Il y a quand même une enfant qui a été blessée, qui a eu le bras, on a bien cru qu'il était cassé, au final non, mais qui s'est bien fait abîmer quand même. Les pompiers sont rendus sur place. Du coup, une scène d'une violence intolérable. Et là, le niveau d'irrespect des mairies augmente petit à petit. Maintenant, on dit même plus aux gens, bon, bah là, il faut partir, la mairie va fermer, ce qui serait déjà assez inacceptable. C'est, oui, oui, attendez-nous. Bah, on va pas revenir, par contre, on va vous envoyer les flics.
Au total, donc, on a maintenant, d'après les associations, à peu près 1900 personnes à la rue, pas seulement des migrants d'ailleurs, hein. Mais beaucoup. Et actuellement, qu'est-ce qui se passe ? À chaque expulsion, eh bien, les gens, où ils vont ? Un peu plus loin. Et c'est une espèce de partie de patate chaude entre les maires, hein, qui essaient de la renvoyer, cette patate chaude, hein, si on peut dire. Et c'est un peu ce qui s'est passé lors de l'expulsion, et si ça se passe à peu près partout, mais lors de l'expulsion de la maison Joliot-Curie à Fontaine, la plupart des gens se sont retrouvés sur un terrain également à Fontaine, sur lequel il a été envisagé, en lien avec plusieurs associations, dont l'abbé Pierre, Rome Action, une situation transitoire un peu plus acceptable que les bâches et les tentes qu'ils avaient mis pour se protéger. Bon, cette solution a échoué en raison de l'opposition de la métro. On avait également une position qui avait été assez favorable de l'évêché là-dessus, et bon, ça n'a pas marché, la métro s'y opposait. Bon, on voit bien que les mairies qui composent la métro et la métro elle-même ne s'intéressent pas beaucoup, c'est peu de le dire, au problème, dont il faut rappeler quand même que la mission d'hébergement est essentiellement le rôle de l'État, n'empêche pas les maires de mettre leur bol là-dedans, et actuellement on voit qu'il n'y a pas de solidarité sur l'agglomération.
Ouais, c'est clair que, enfin, pas de solidarité en tout cas entre les mairies, et pas non plus tellement de solidarité justement des habitants. On le disait, ce qui est paradoxal par rapport à cette impression d'élan de solidarité au niveau national envers les réfugiés syriens. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que, et c'est un peu comme dans la procédure justement de la demande d'asile, la légalité, ou en tout cas la loi qui serait justement qui permettrait à un moment un réel accès aux droits, et par exemple une procédure d'asile respectée, ou un logement justement conçu comme un droit fondamental qui serait respecté, en réalité cela n'est jamais respecté, et les élus le bafouent eux-mêmes lorsque ça les arrange. Ils n'hésitent pas à forcer une maison eux-mêmes ou à rompre la continuité de l'hébergement. Également, enfin, on peut remarquer justement que les politiques et les médias eux-mêmes jouent facilement avec cette opinion soi-disant des riverains et n'hésitent pas justement à les utiliser quand ça les arrange pour expulser un campement de Roms, pour justifier de l'arrêt de l'hébergement juste avant la trêve hivernale, par exemple.
Et je pense que c'était un des objectifs de la manifestation du 10 octobre, c'est de dire que aussi les associations en ont marre d'être le substitut de tout ce que l'État ne fait plus en matière de solidarité et d'hébergement.
Par rapport en tout cas à cette trêve hivernale, on reviendra aussi, à cette question justement des Roms, on y reviendra de manière plus détaillée dans l'émission prochaine justement, puisque entre-temps se déroulera une conférence à Grenoble, une conférence d'Éric Fassin qui a écrit un livre sur Rome, enfin, dont le titre est Rome et riverains, un ouvrage collectif mais auquel il a participé, et du coup il viendra revenir sur ce livre au mois de décembre, de mémoire c'est le 5 décembre, et du coup dans la prochaine émission, ou le 2 décembre, et du coup dans la prochaine émission on reviendra justement sur ces questions des Roms dans l'agglomération grenobloise.
Et du coup, tout à l'heure, on a parlé de la police qui expulsait violemment, là, dans ce cas de la mairie d'Échirolles. On va continuer sur les violences policières, cette fois quand la police tue. Et on va parler donc de Aliziri. Avant ça, on va écouter un morceau de Sista Shifa qui s'appelle Les Flammes de la Colère.
Sur News FM. Donc les flammes de la colère, parce qu'on est en colère face à toutes ces violences d'État qui restent impunies. Et en exemple, on peut citer l'affaire Aliziri, l'histoire d'un homme de 69 ans mort des suites d'une interpellation policière violente à Argenteuil en juin 2009.
Nous demandons au procureur de la République de décider la mise en examen des policiers impliqués dans la mort d'Aliziri.
Le procureur adjoint du tribunal de grande instance de Pontoise a requis un non-lieu dans l'affaire Aliziri.
Bearing strange fruit, blood on the leaves, and blood
at the roots. Que la police a une responsabilité première sur la mort de Monsieur Aliziri.
La vidéo aujourd'hui, elle est sous scellé.
La vidéo du commissariat.
Du commissariat.
Dignité! Pour nos frères assassinés, dignité!
Un homme de 69 ans, algérien, qui s'est fait tuer à Argenteuil par la police après avoir été tabassé. Et jusqu'à aujourd'hui, les policiers ont été relaxés. Nous avons été à la cour d'appel, puis à la cour de cassation. Et jusqu'à ce jour, personne ne reconnaît la responsabilité de cette police qui a tué. Police qui a... On ne peut pas dire autre chose qu'un crime raciste, puisque ce monsieur de 69 ans n'avait rien fait de particulier, mais voilà, il s'est retrouvé tabassé avec son copain. Son copain est aujourd'hui handicapé à vie, et lui, il est décédé. Donc nous ne lâcherons pas, et nous continuerons à nous battre pour la justice et la vérité, parce que nous ne pouvons pas laisser dans l'impunité une police qui assassine, une police qui tue impunément. On ne peut pas continuer à accepter de se taire face à une telle injustice. Après, il est facile de dire que les jeunes des cités sont des voyous, mais on pourrait se demander qui est le plus voyou entre la police et les jeunes lorsque l'on se fait, lorsqu'on voit nos frères, nos pères se faire tuer et qu'aucune justice, qu'on peut appeler ça un racisme d'État, tout simplement. Voilà.
Voilà, vous avez pu entendre un extrait du film « Qui a tué Ali Ziri ?» réalisé par Luc De Caster, membre du collectif pour la vérité. Bon, vérité et justice pour Ali Ziri, qui s'est constitué suite à cette affaire. Le film est actuellement en tournée dans toute la France. Il est passé à Grenoble le 28 octobre au club. La projection était organisée par le collectif pour la dignité et contre le racisme 38. Vous avez également pu entendre un témoignage d'une des membres du collectif Vérité et justice, qui était présent à la manifestation du 31 octobre qui a eu lieu à Paris, sur laquelle nous reviendrons dans une prochaine émission.
Peut-être juste, on peut dire un mot sur la chanson qu'on entend à un moment, Strange Fruits, qui est une chanson qui est plus connue par son interprète Billie Holiday. Et cette chanson, donc les Strange Fruits, les fruits étranges qui sont mentionnés, c'était les corps des hommes noirs qui étaient pendus aux arbres, suite souvent, soi-disant, à... des agressions qu'ils auraient commis sur des blancs ou à de la désobéissance. Et voilà, c'était une façon de les punir, notamment par le Ku Klux Klan. Et peut-être juste pour dire deux mots sur le collectif qui a organisé cette projection, c'est un collectif auquel on redonnera la parole lors de la prochaine émission.
Ok. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport, pour revenir sur la manifestation qui a eu lieu donc le 31 octobre, c'est une manifestation qui a été organisée par la MAFED, Marche des Femmes pour la Dignité, et qui a rassemblé entre 10 et 20 000 personnes, dont plusieurs collectifs et associations. Et le collectif Grenoblois pour la Dignité et contre le racisme 38 a organisé à cette occasion un bus pour permettre aux Grenoblois de participer à cette marche.
Oui, une toute petite réaction sur la question de la violence d'État, la violence qui est faite envers les migrants ou d'autres personnes. D'ailleurs, vous connaissez probablement la situation telle qu'elle se déroule en ce moment à Calais, où l'État a été d'ailleurs condamné au début de cette semaine à devoir améliorer les conditions d'existence des personnes qui sont là-bas. La frontière, elle tue. Tout à l'heure, l'un des demandeurs d'asile interviewé nous parlait de difficultés de franchir les frontières européennes. Les frontières, elles entraînent des morts. C'est le passage des frontières en Méditerranée, évidemment. Je parlais tout à l'heure de ce jeune Afghan qui a été tué par un garde-frontière bulgare. À Calais, des gens meurent tous les jours. Les réactions de l'État, elles consistent tout simplement non pas à tenter de protéger ces personnes, mais à essayer de voir s'il y a une solution pour entraîner la fin de cette hécatombe. Elles consistent tout simplement à tenter de d'étouffer le problème, de déplacer les gens qui sont là-bas, de les envoyer ailleurs en France le plus loin possible de Calais, voire éventuellement dans certains cas de les placer en rétention et d'organiser leur retour vers des pays comme l'Irak, comme l'Érythrée, le Soudan, des pays vers lesquels on ne peut pas renvoyer des gens. Plutôt que de trouver une solution, essayer de l'étouffer, essayer de l'endormir. Voilà. C'est un petit peu déplorable.
Et la transition est donc toute faite justement vers notre dernière partie d'émission, la partie donc des informations, puisqu'on a tout d'abord justement une brève sur Calais et justement sur ces questions en fait. Que donc la situation à Calais, en effet, c'est celle-ci, celle d'un blocage de migrants qui essayent de traverser la frontière et du coup de ressortir de l'espace Schengen pour aller en Angleterre. et une frontière qui est littéralement militarisée avec des barbelés, un périmètre de sécurité, Eurotunnel, donc le tunnel sous la Manche, les gares ferroviaires à Paris et finalement toute la partie aussi de cette autoroute pour Calais est complètement protégée et complètement militarisée pour empêcher les migrants d'arriver et de passer jusqu'en Angleterre. Ces migrants sont donc bloqués et essayent malgré tout, vaille que vaille, de vivre à Calais en attendant leur possible passage. C'est ce qu'on appelle une zone tampon. Et là encore, on a un État du coup qui a une réponse pas du tout adaptée, on va dire, face à cette arrivée de personnes à Calais. D'abord, ils ont essayé de les déplacer bien à l'extérieur de la ville avec la création d'un centre d'accueil qui s'appelle donc Jules Ferry, qui est à l'extérieur de la ville, un centre donc on le rappelle conçu, imaginé pour accueillir 1500 personnes. Aujourd'hui, ils sont plus de 8000 à vivre aux abords de ce centre. Donc évidemment, insuffisance de douche, insuffisance de distribution alimentaire qui de toute façon à la base était insuffisante puisqu'il n'y a aucun espace pour cuisiner ou pour avoir une distribution alimentaire et qu'un seul repas était donné aux migrants par jour. Tout ça donc, un accueil on va dire assez inhumain dans le but que les migrants ne restent pas à Calais, sauf que les migrants restent de fait à Calais. Alors on a donc décidé de les forcer et de les déplacer malgré eux. Et un certain nombre de rafles ont été organisées récemment, là ces dernières semaines, justement aux alentours de Calais. Par bus complet, les migrants sont enlevés aux alentours du camp donc de Jules Ferry et aux alentours des autoroutes dans lesquelles ils essayent de monter dans les camions. 50 personnes d'un coup partent une fois à Montauban, une fois à Marseille, une fois à Toulouse, une fois à Lyon, et vont alors être enfermées justement dans des centres de rétention administrative, donc des prisons pour personnes migrantes. Voilà, une pratique illégale et en plus relativement inefficace, puisque les migrants de toute façon ont le droit, enfin a priori en tout cas, sont rapidement relâchés après avoir eu leur procès et reviennent du coup à Calais de nouveau retenter leur chance pour traverser en Angleterre.
Et c'est pas seulement des bus qui ont été affrétés, il y a aussi eu des avions, ce qui a eu un coût énorme pour l'État, et ce qui montre bien que le problème des migrants en France, c'est pas un problème économique. L'argent en France, il y en a, et c'est vraiment un choix politique de ne pas avoir une politique d'accueil décente pour les migrants.
Alors, autre sujet, la trêve hivernale qui a commencé le 1er novembre. Qu'est-ce que c'est que la trêve hivernale? C'est un, contrairement à parfois des rumeurs, c'est vraiment une obligation légale qui s'impose et qui empêche les propriétaires d'expulser leurs locataires du 1er novembre au 31 mars. C'était jusqu'à présent au 15 mars, puis une récente loi, la loi Allure, l'a portée au 31 mars. Donc, aucune expulsion de locataires possible, quelle qu'en soit la raison. Et également, ce qu'on sait parfois moins, c'est également l'interdiction de couper l'eau et l'électricité pendant cette période. Alors, ça s'applique essentiellement aux expulsions locatives. On reviendra sur le sujet dans une émission ultérieure, mais peut-être tu pourrais amener des explications complémentaires sur les squats et sur les occupations de camps, de terrains.
Oui, alors souvent on entend dire que de toute manière les squats et les terrains peuvent pas être expulsés en hiver, il y a la trêve hivernale, les gens sont protégés, comme si toujours la justice était trop gentille avec les personnes qui sont en grande précarité. La réalité c'est que en fait, il arrive très régulièrement que des terrains et des squats soient expulsés en hiver. Parce que même si ce droit existe pour n'importe quel habitant, n'importe quelle personne qui est dans son domicile principal, que ce soit dans un squat ou dans un terrain, un campement, un bidonville, la réalité c'est que le propriétaire de cette maison squattée ou terrain squatté va faire un procès pour expulser et va demander au juge la suppression des délais légaux, donc la suppression de la trêve hivernale et de 2 mois de délai avant que la police puisse arriver pour expulser. Et sous prétexte que l'occupation est illégale et du coup sous prétexte qu'il y a eu voie de fait, comme ils disent quoi dans le langage officiel. Alors une voie de fait, souvent on aurait tendance à penser que c'est une porte cassée, une fenêtre cassée, des dégradations. La réalité c'est que les juges vont décider le seuil de la voie de fait, en fait, à quel moment il y a une voie de fait. Alors ça va être parce qu'un portail a été sauté, parce que des personnes sont pas dans, ne sont pas propriétaires du logement où elles se trouvent. Bon, alors finalement, la voie de fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Et alors, à peu près tout et n'importe quoi permet donc de supprimer les délais légaux pour les squats et les terrains. Ce qui fait que, oui, il y a des expulsions en plein hiver. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent virées de leur domicile principal, parce que c'est ça la réalité. En fait, les squats et les terrains sont les domiciles principaux, des gens qui y habitent, et ils ont nulle part d'autre où aller, et c'est des mises à la rue, voilà, des expulsions, quoi.
Et pour finir ces news, une bonne nouvelle, parce qu'il en faut aussi. Alors, on tient à saluer la victoire des Chibani face à la SNCF au Prud'homme de Paris. Donc, cette victoire est arrivée le 21 septembre dernier. Chibani, en marocain, ça veut dire cheveux blancs. C'est un terme qui est désigné pour parler des anciens. Peut-être en arabe de façon plus générale, mais c'est une langue que je parle pas, donc je ne sais pas. Et ces Chibani, ils ont été recrutés par la France dans les années 70. Donc, beaucoup pour travailler à la SNCF à différents niveaux. Et en fait, ils ont assigné à la SNCF parce qu'ils souffraient de traitements complètement différents et injustes par rapport aux salariés français, notamment au niveau de la progression possible dans l'entreprise et aussi des retraites. Et les premiers dossiers avaient été déposés en 2005. Au final, il y a 832 personnes qui avaient assigné à la SNCF. Et voilà, donc les prud'hommes leur ont donné raison. Et si vous voulez plus d'informations là-dessus, il y a notamment des communiqués de presse sur le site de l'association Droit à la différence, que vous trouverez facilement sur Internet. Donc voilà, solidarité, félicitations à tous ces Chibani et à toutes leurs familles.
On enchaîne du coup sur la partie agenda et événements, puisqu'il y a des choses du coup à suivre dans ce mois de décembre. Voilà, un petit peu d'actualité pour tenir le coup jusqu'à la prochaine émission.
Alors, pour commencer, on va parler de la semaine pour la solidarité internationale qui a lieu du 14 au 22 novembre. Il va se passer tout un tas d'événements. Vous pouvez voir sur le site internet ce qui se passe près de chez vous. Et notamment, il va y avoir quelque chose autour de 10 heures pour la Palestine. Mais on n'a pas trouvé plus d'informations que ça encore, mais je pense que ça va bientôt arriver sur internet.
Également, le mardi 17 novembre à 20h30 au 102, il y aura une soirée d'information sur la situation des Roms dans l'Europe d'aujourd'hui en présence de Claire Ozias, qui s'intéresse à l'histoire des peuples Roms et a écrit plusieurs ouvrages et articles à ce sujet-là.
Et le 102, c'est 102 rue d'Alembert à Grenoble.
Voilà. Et comme on l'a évoqué déjà tout à l'heure, le mercredi 2 décembre, et non pas le 5, donc bien le 2 décembre, à 18h30 sur le campus de Saint-Martin-d'Air à Sciences Po Grenoble, il y aura une conférence d'Éric Fassin, qui est donc un des auteurs de l'ouvrage « Rome et riverains », pardon, donc un livre dont on vous reparlera à la prochaine émission. Et donc cette conférence est organisée par l'association Rome Action.
Ensuite, on voulait reparler des permanences de l'ADA. Olivier, est-ce que tu veux redonner les horaires et l'adresse ?
Oui, l'ADA est située au 6 rue Berthe de Boissieu, une entrée de la maison des associations. Les permanences ont lieu tous les mardis et tous les vendredis de 9h à midi.
Et ensuite, on voulait aussi vous parler d'autres permanences qui ont lieu à la BAF de Chemin des Alpins. C'est les permanences de la PAD, plateforme d'autodéfense pour l'accès aux droits, donc premier et troisième jeudi de chaque mois de 14h30 à 16h30, qui est ouvert à toutes les personnes en galère. Du coup, ça peut être de l'aide pour se retrouver dans ces démarches, remplir des papiers, mettre en contact avec des avocats, donner un peu des conseils, donc sur différents thèmes, justice, prison, droit d'asile, droit au logement, droit aux prestations sociales, CAF, CPM, AME, droits des femmes et des personnes LGBT.
Voilà, est-ce qu'il y a encore d'autres informations à l'agenda ?
Peut-être on peut dire sur News FM ce soir, ne ratez pas l'émission Les Nuits du Bled avec Mohamed. Et du coup, c'est tous les dimanches, donc ce soir, que je ne me trompe pas sur les horaires, je crois que c'est de 19h à 21h. Voilà. Musique du Maghreb et du Moyen-Orient.
Et puis, on peut, en cette fin d'émission, ben, vous parler des sujets qu'on aimerait aborder. On en a déjà évoqué plusieurs. Ce sont l'hébergement hivernal, être un peu plus précis là, sur cette question, avec peut-être un invité. Peut-être revenir sur les différentes manifestations qui ont eu lieu récemment. sur la situation des Roms en France. Donc, on espère bien avoir aussi un invité.
Également le... aussi, ouais, oui, sur la, tu parlais des manifestations, sur la manifestation aussi du 31, la marche des femmes pour la dignité. Du coup, on va revenir aussi dessus parce qu'on a, il y a eu beaucoup de, ça a rassemblé beaucoup de collectifs et donc du coup on a pas mal de témoignages et pour un peu se tenir au courant de ce qui se passe au niveau national de, d'actions et de collectifs qui se montent.
Également la situation, donc la situation des Roms, j'en ai parlé, un parcours de migrants, hein, donc avec un ou deux invités également, on en a déjà eu des enregistrements. Et puis Frontex, on vous en a parlé, mais on l'a juste évoqué, c'est quand même une structure dont il faut, qui est trop méconnue par également la, sa façon de traiter les migrants.
Et voilà, donc on vous retrouve le dimanche 6 décembre de 12h à 14h. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des messages sur notre page Facebook. Peut-être on peut rappeler l'adresse.
Donc page Facebook, tout simplement, micro-ondes, News FM, voilà. Donc des commentaires, des réactions, etc. Et puis n'hésitez pas donc à nous appeler. Bah, pendant l'émission, c'est mieux, mais peut-être à nous laisser des messages sur le répondeur de News FM. Donc hors antenne, c'est le 04 76 26 81 21, voilà.
Et pendant l'antenne, pour la prochaine émission, 04 56 14 23 54.
Et on vous laisse au son de KRS-One, Sound of the Police.
Au revoir.
À bientôt.
That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound. I know this for a fact. You don't like how I- the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.
Et Micro-Ondes reprend l'antenne juste pour vous informer, pour celles et ceux qui n'auront pas ou qui voudront réécouter l'émission, qu'elle est podcastable sur le site de News FM, radionewsfm.fr. On vous laisse cette fois avec Lauryn Hill, Black Rage. Micro-Ondes.
Une émission qui vous tient à contre-courant.
Tous les premiers dimanches du mois. On vous parle de sujets brûlants.
Mais c'est pas de réchauffer !
Une émission qui s'attaque au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales. À l'intérieur, pas de la lutte, que de la lutte.
De midi à 14h.
Sur News FM 101.2. Black Rage founded on two-thirds a person. Rapings and beatings and suffering that worsens. Black human packages tied up in strings. Black Rage can come from all these kinds of things. Black rage is founded on blatant denial, squeezed economics, subsistence survival, deafening silence and social control. Black rage is founded on wounds in the soul. When the dogs bite, when the bees sting, when I'm feeling sad, I simply remember all these kinds of things, and then I don't fear so bad. Black rage is founded, fed us self-hatred, lies and abuse, while we waited and waited. Spiritual treason, this grid and its cages. Black rage is founded on these kinds of things. Black rage is founded on training and training, finding your freedom to stop your complaining, poisoning your water while they say it's raining. Call me mad for complaining, complaining. Progress of human contortion. Black rage is founded on these kinds of things. When the dogs bite, when the beatings, when I'm feeling sad, I simply remember all these kinds of things, and then I don't fear so bad. Free and surprise, is it myth or illusion? Forcing you back into purpose confusion, like human trafficking or blood transfusion. Black rage is founded on these kinds of things. All these